Voilà, bonjour à toutes et à toutes. Alors, vous êtes à Bordeaux et précisément à la librairie Mola pour nous présenter un bébé, tout bébé, tout jeune, hein, voilà, forcément, qui s'appelle La Revue du Crieur. Et vous allez nous en dire évidemment en plus dans un instant. Il se trouve que l'actualité, comme c'est souvent d'ailleurs... je me souviens d'une présentation d'un de vos journalistes que vous connaissez très bien, Fabrice Arfi, ici, en vos lieux et place sur son dernier livre, qui avait, pareil, été rejoint par une actualité brûlante au moment de son intervention. Bon, depuis ce matin, on vous entend beaucoup en réaction aux écoutes de la NSA. Et précisément, d'ailleurs, il y a un article sur la NSA, « Surveillance dans la tête de la NSA ». Un excellent papier de Grégoire Chamaillou. Alors vous allez peut-être nous dire, Louis Plenel, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer avec vos amis de la découverte cette revue du crieur. Et puis avant de vous donner la parole, effectivement, vous le dites, il y a effectivement deux crieurs dans le logo, hein, de chacun des deux partenaires, Mediapart d'un côté, la découverte de l'autre. Et alors pourquoi avoir intitulé votre préface « En souvenir de François Maspero » voilà.
Merci. Pardon du voilà, c'est un aller-retour un peu rapide et en effet l'actualité bouscule, donc je vous ai fait patienter et je vous présente mes excuses. Donc bonjour à tous. En fait, ce projet qui est venu donc de cette maison d'édition, La Découverte, et d'une relation, je dirais, générationnelle entre des auteurs, des contributeurs, des auteurs de livres qui ont la trentaine et des journalistes de Mediapart qui ont la même trentaine, dont le co-rédacteur en chef Joseph Confavreux, qui anime cette revue avec Rémi Toulouse pour La Découverte. Et ce projet est né d'une relation qui a un symbole. Il se trouve que ce symbole, entre-temps, est passé du monde des vivants à un autre monde. C'est en effet François Maspero. La maison d'édition La Découverte a succédé aux éditions Maspero, François Maspero, créé en 1959, 5 ans après qu'il ait commencé comme libraire et... dans un contexte où cette maison a sauvé l'honneur, pourrait-on dire, de la République, de ses idéaux, un peu comme les... pas un peu, en même temps que les éditions de Minuit le faisaient, dans ce moment qui a vu la fin d'une République, qui a vu la France être confrontée à la question de la torture, et dans ce moment qui fut un moment presque de guerre civile, dans la décolonisation tardive et violente. Donc François Maspero est quelqu'un que pour moi, je l'ai déjà écrit dans des livres, et qui pour moi est une sorte de figure tutélaire. Il n'a été éditeur que 20 ans, mais quel éditeur ?
Parce qu'il a vendu en 82, c'est voilà, ça, hein, à François Gèze.
Voilà, hein, qui a succédé, qui a pris La Découverte. Et là, aujourd'hui, c'est Hugues Jalon qui dirige cette maison d'édition. Et ensuite, pour certains d'entre vous, vous avez dû croiser ses livres, François Maspero. Tout d'un coup, on a découvert l'écrivain qui était François Maspero, le traducteur immense, l'amoureux de la poésie. Et quand nous avons créé Mediapart en 2008, vous retrouverez, c'est sur mon blog, c'est le premier billet de blog, donc c'est en accès libre de Mediapart, j'ai expliqué déjà pourquoi nous avions ce logo-là, Web 2.0, d'un crieur de journaux, c'est-à-dire du passage du papier au numérique, pourquoi il y avait ce... trait d'union qui montrait comment nous allions défendre une tradition dans la modernité. Cette tradition de la presse comme un élément vivant de la démocratie, comme une université populaire, comme un lieu auquel on a accès sans distinction d'origine, de diplôme, etc. Un peu comme pour moi a été la librairie François Maspero pour ma génération, qui était un peu notre université permanente. Or, ce logo de Mediapart, le crieur, était inspiré, c'est cela que vous retrouvez et que vous montriez, de une petite gravure du 19e siècle que François Maspero avait exhumé quand il a lancé la petite collection Maspero, la PCM, à la fin des années 60. Et c'était le symbole qu'ont gardé les éditions de La Découverte. Pour moi, c'était une façon de dire, voilà, nous faisons un journal totalement inédit, totalement indépendant, sans aucune autre ressource que ses acheteurs. C'était un pari fou quand nous l'avons fait en 2008, mais je voulais montrer que dans la modernité du numérique, nous allions défendre, dans cette révolution que concrétise Internet, nous allions défendre une tradition. Et de ce point de vue, cette tradition, pour moi, c'est être dans la mêlée. C'est ne pas être à l'écart, ne pas être au-dessus. Déjà, le participatif, quand on fait un journal numérique, fait que nous sommes descendu de l'estrade, que nos lecteurs nous bousculent, nous prolongent, nous critiquent, qu'il y a une nouvelle relation qui se fait avec le public. Et pour moi, le crieur de journaux, c'est ce que j'ai toujours défendu, ça va faire 40 ans que je fais ce métier en janvier prochain, c'est cette image-là. Il est dans la rue, il fait vivre les nouvelles, il dit « venez me lire parce qu'il y a quelque chose que vous ne trouverez pas ailleurs ». Il y a un événement qui doit vous requérir, qui doit vous sensibiliser. Bref, c'est cet idéal démocratique d'une presse vivante dans l'espace public. Et donc, nous sommes dans la mêlée, et la mêlée, pour un journal, c'est rencontrer son époque. Ce n'est pas seulement sortir des informations qui font sens, des informations d'intérêt public, c'est aussi donner du sens. C'est aussi, dans des moments comme celui que nous vivons, un peu de confusion, de transition, d'incertitude, de grand doute, essayer de donner du sens. Et j'ai pensé, quand on a présenté à Paris, dans un lieu culturel qui s'appelle le 104, la revue du Crieur, donc ce titre est venu de ces deux logos, j'ai rappelé que la première revue qu'avait lancée François Maspero en 61 s'appelait Partisan, et j'ai apporté d'ailleurs le premier numéro, là j'ai dans la bousculade là, de la National Security Agency, j'ai oublié de l'apporter, je m'en excuse, ce premier numéro, François Maspero avait demandé à Vercors, l'auteur du Silence de la mer, de faire l'introduction, et l'introduction était titrée « Nous sommes des partisans ». Et Vercors expliquait les deux sens de partisans, c'est-à-dire à la fois ceux qui prennent parti et ceux qui mènent une sorte de guerre un peu asymétrique, avec du faible au fort, avec leurs propres agendas. Et donc, de ce point de vue, oui, nous sommes partisans d'inventer des causes communes qui soient celles de l'égalité, de la fraternité, de la liberté, qui ne soient pas celles du cynisme, qui ne soient pas celles de la ligne de plus grande pente qui illustre par exemple cette question de la surveillance générale. Et nous menons une guerre asymétrique du faible au fort en ayant nos agendas, en ayant nos nouvelles. Voilà un peu le point de départ. Après, nous allons feuilleter ensemble ce sommaire.
Alors, quand même, un mot sur le support, sur le contenant, avant de parler du contenu peut-être. Mediapart, c'est depuis 2008, vous l'avez très bien dit, sur un support qui est le net, qui est donc, pour vous, c'était une évolution tout à fait considérable. Vous étiez un homme de la presse écrite, on s'en souvient, et de la presse quotidienne. Pourquoi avoir choisi cette idée de la revue avec des publications, je dis pour nos amis qui sont là, 3 numéros par an, donc vous inscrivez bien dans cette tradition des revues françaises de réflexion. On pourrait les citer, vous pourriez, mais c'est pas, on va pas forcément faire de la publicité pour les autres. Pourquoi avoir pris ce retour à l'écrit là ?
D'abord, nous.
À l'écrit. Après, mais je veux dire.
Voilà, pour vous dire, moi j'ai toujours dit depuis que nous avons créé Mediapart que les gens disent parfois c'est un site. Non, c'est un journal. Et d'ailleurs, je me suis battu pour la reconnaissance de la presse numérique comme une presse à égalité de droits et de devoirs.
Et de fiscalité.
Et de fiscalité.
Et ça marche pas, si j'ai bien compris.
C'est une bataille. C'est une bataille qui a été gagnée sur les principes, qu'il y ait des coups bas de la haute administration pour se venger de l'affaire Cahuzac, c'est autre chose. Mais sur le fond, nous avons gagné. Et donc, jusque, y compris la présidence de l'Union européenne l'a dit récemment, la neutralité technologique. Nous faisons de la presse, et ce n'est pas le support qui distingue la presse. La presse numérique, c'est de l'écrit. Nous faisons des articles très longs sur Mediapart, et nous avons démontré que, contrairement à un préjugé, eh bien, ce ne sont pas les tuyaux qui déterminent les contenus. C'est une bataille au cœur des tuyaux. On peut faire, grâce à Internet, et Mediapart le montre, on peut faire du journalisme qui n'est pas superficiel, qui n'est pas dans l'immédiateté, qui n'est pas dans le flux. Mediapart restaure une tradition de la presse traditionnelle, ancienne. Il y a 3 éditions par jour.
Alors pourquoi,
le matin, midi et soir.
Pourquoi pour le crayeur, le print alors ?
Eh bien, depuis le début, Mediapart fait du papier. Mediapart a toujours fait des livres. Avec les éditions Don Quichotte, ou aussi récemment, quand j'ai fait pour les musulmans à partir d'un de mes articles, aux éditions de La Découverte. Si vous regardez le catalogue des éditions Don Quichotte, vous trouverez à peu près 1 à 2 livres de Mediapart par an. Donc je n'ai jamais dit, par rapport à la presse d'où je viens, 25 ans au Monde, vous le savez, que le numérique était la fin du papier. C'est la crise d'un certain type de presse, la presse quotidienne imprimée. En revanche, il y a d'autres rythmes qui ont leur place, que montrent ce qu'on appelle les MOOC, les revues 21 et d'autres. Et nous, nous avons toujours dit, d'où notre relation plutôt excellente avec les libraires, qu'il y a un autre rythme de lecture qui va tout à fait, parce que le modèle du livre ne va pas changer. Il y a un début, il y a une fin, il y a un récit, il y a une linéarité, il y a une progression. Donc, nous avons toujours défendu cette idée que nous ferons en même temps du papier. Alors, en l'occurrence, faire cette revue, c'était quelque part rompre une sorte d'endormissement qui existe dans cet univers des revues, le débat, Esprit et bien d'autres. Des revues qui, et d'ailleurs c'est un peu affiché dans les 2 enquêtes que nous avons faites sur Michel Onfray et sur Marcel Gauchet, Marcel Gauchet étant l'un des responsables de la revue Le Débat. Comme vous le savez, Mediapart, nous défendons le journalisme d'enquête. Et donc nous n'avons pas voulu ajouter une revue qui serait pour nous faire plaisir et ajouter de la polémique, de l'opinion pure. Le principe de cette revue, et c'est ce qui est dit là, c'est enquête sur les idées et la culture.
Alors oui, ça c'est là. C'est le bandeau, et puis on va revenir après sur ce qu'il y a sur les jaquettes, les retours.
Et donc ça veut dire qu'il faut justifier ce que l'on dit. Vous verrez, il y a plein de notes qui prolongent les articles. Il faut prouver ce que l'on dit, il faut argumenter. L'article sur Marcel Gauchet, les 2 universitaires qui ont fait ce travail ont relu l'œuvre de Marcel Gauchet.
Je vous en prie. Comprendre le détail. Si on ouvre là, les petits rabats sont très intéressants. En quelque sorte, c'est votre...
C'est le manifeste.
Oui, c'est ça, c'est un manifeste en 8 points. Hein, voilà. C'est les 8 conditions, ça va vous rappeler les conditions d'un autre, d'autres, les 8 conditions des Louis Plenel.
D'un collectif.
Oui, c'est ça. Un journalisme d'idées, alerte et ambitieux.
Oui.
Je vous l'ai dit, puis après vous allez choisir celle que vous voulez développer.
Oui.
Parce qu'intello n'est pas un gros mot. Oui. Des controverses, débats et idées du monde entier et de toutes les disciplines. Une revue sur la culture populaire, les arts, l'histoire, la littérature, la théorie des sciences, la pluridisciplinarité est vraiment à l'honneur. Un point de vue critique sur le monde intellectuel, je pense que c'est critique au sens de kritein en grec qui est examiné, apprécié. Une plongée dans la fabrique des idées, ses acteurs, ses réseaux. Une contribution iconoclaste au débat démocratique. Quand même, plusieurs reprises, on sent un peu l'envie de débattre, de la dispute, quoi. Et un regard sans frontières ni chapelle pour penser notre temps. Vous prenez les 8 ensemble. Il n'y a pas quelque chose de plus fort.
Non. Et sur critique, je voudrais dire, vous savez, parce que je réinsiste sur cette idée, nous sommes dans un moment, on le sait tous, je n'aime pas le mot crise parce qu'il donne ce sentiment de fatalité, mais nous sommes dans un moment, qu'il s'agisse des idées, des espérances, de la politique, des causes communes, nous sommes dans un moment de doute, d'incertitude. Moi, je n'ai pas à apporter les réponses que nous impose notre présidentialisme délétère où on est voyez, comme des lapins dans les phares, en se demandant qui ce sera dans 2 ans, etc. En revanche, notre rôle, c'est d'essayer de tracer un chemin où on arrive à réinventer des réponses qui redonnent de l'espérance. Et de ce point de vue, toujours la tradition dans la modernité, quand Albert Camus, que j'avais tout de suite mis également en exergue dans le lancement de Mediapart, lance Combat à la libération de Paris, et il va vraiment pendant 3 ans être vraiment un patron de journal et un journaliste avec beaucoup d'allant, il a cette phrase « Notre désir, d'autant plus fort qu'il était muet », il parle du journalisme de résistance clandestin, était d'élever ce pays en élevant son langage. Ce qui déjà est une formule importante par rapport à toutes sortes de polémiques très basses, de façon d'étiqueter, de façon de ne pas donner du sens et prendre de la hauteur. Mais surtout, il fait 2 articles dans les éditoriaux d'août-septembre 1944, où il défend cette idée à la fois d'un journalisme critique et d'un journalisme d'idées. Et si je peux me permettre, il y a quelque chose qui pour moi est très en cohérence, parce que vous pouvez lui dire, mais qu'est-ce que c'est là? Ils font une revue sur les enquêtes, sur les idées et la culture, et de l'autre côté, c'est ceux qui sortent, je caricature, hein, les boules puantes qui dépriment la démocratie avec toutes leurs révélations et tous leurs scandales. Or, dans un petit livre que j'ai sorti là au mois de juin, parce que c'est les 30 ans d'une affaire qui m'avait pas mal occupé, qui m'a un peu fait connaître, qui est l'affaire Greenpeace, le scandale du Rainbow Warrior, en 85, je fais un petit livre qui s'appelle « La troisième équipe, souvenir de l'affaire Greenpeace », où je reviens sur ce qu'est pour moi l'enquête. L'enquête journalistique, et l'universitaire que vous êtes comprendra que pour moi, l'enquête journalistique, elle n'a pas fondamentalement de démarche différente qu'une enquête sociologique, qu'une enquête scientifique. Et c'est cette idée du puzzle. Une enquête, c'est pas sortir un scoop, sortir un élément comme ça. C'est faire comprendre, construire un paysage, faire mettre à plat différents éléments pour finalement, à un moment, se dire voilà la pièce manquante, essentielle, qui va tout d'un coup compléter le paysage. Et donc ce journalisme d'idées, ce journalisme critique dont parlait Albert Camus, pour moi rejoint ce que j'ai toujours défendu sur le terrain de l'information pure, c'est-à-dire ce journalisme d'enquête où tout d'un coup une nouvelle inattendue, indocile, imprévue, parfois incompréhensible, dans le cas de l'affaire Greenpeace, pour ceux qui s'en souviennent, comment imaginer que la France ait pu aller commettre un attentat dans un pays, un terrorisme d'État, dans un pays allié, en Nouvelle-Zélande, en tuant au passage un journaliste photographe et en coulant le navire amiral du mouvement écologiste Greenpeace. Tout ça semblait impensable, c'est-à-dire qu'il y a de la déraison dans la raison d'État, hein, de l'irrationnel. Eh bien, pour ça, il fallait arriver à construire du sens qui permette de comprendre comment a pu surgir ce qui nous semblait inimaginable. Et donc, c'est aussi, pour nous, ce travail-là, c'est une façon de montrer que le journal que nous faisons, dont vous entendez parler par ces révélations et où je vais en tant que crieur, je suis le crieur de Mediapart, où je vais dans des lieux de perdition, dans des lieux où il faut taper, faire du battage d'estrade pour faire parler de Mediapart. En même temps, ce journal, c'est aussi un journal de fond. C'est un journal qui donne à réfléchir, car le type d'articles qu'il y a là, ce sont des articles qu'il y a dans Mediapart. Le principe, c'est qu'il y a au moins 2 ou 3 articles qui sont faits par journalistes de Mediapart. Et 2 de la dizaine d'articles publiés dans chaque numéro sont publiés sur Mediapart. On a déjà mis celui sur Michel Onfray et on va mettre celui sur comment Google a acheté la presse.
Voilà. Justement, c'était celui-là sur lequel je voulais un peu, entre autres, rebondir. D'ailleurs, parce que c'est Olivier Alexandre qui se trouve... c'est Dan Israël qui a écrit l'article sur Gaulle et la presse, mais il y a un article tout à fait passionnant d'Olivier Alexandre. Il se trouve que ça a été mon étudiant, alors je suis content de le retrouver là. YouTube ou l'imaginaire sous contrôle.
Les YouTubeurs.
Ouais, il y a eu ici quasiment une émeute dans la rue juste derrière, parce qu'il y avait une YouTubeuse particulièrement célèbre qui est arrivée à la librairie Mola. Il y avait une file d'attente depuis 6 heures du matin. Hein, donc, le côté très concret. Moi, j'ai beaucoup aimé un article remarquable d'un historien tout à fait remarquable, donc j'ai été d'ailleurs content de constater qu'il était maintenant à Cornell. Université ô combien prestigieuse, après avoir été d'abord à celle de Picardie, Enzo Traverso, Spectre du fascisme. Ça, c'est un très bon article, tout à fait passionnant. Est-ce que vous pouvez, par exemple, sur Spectre du fascisme, qu'est-ce que vous en avez pensé
Alors, Enzo Traverso, hein, pour ceux qui est un bon ami, Enzo Traverso est vraiment celui qui a, de la manière, je dirais, la plus complète, la moins idéologique, essayé de réfléchir en tant qu'historien sur cette notion de totalitarisme, hein, y compris les débats intellectuels et autour du totalitarisme, aussi, l'historiographie, les débats à gauche, à droite, sur, entre le nazisme, entre le stalinisme, les différences, et de penser, évidemment, le poids de la catastrophe européenne. Il a notamment fait un livre qui a vraiment anticipé beaucoup de débats sur cet engrenage des 30 ans dont on a reparlé autour du centenaire de 1914, peut-être insuffisamment, hein, cette idée que, bon, c'est un fracas.
L'Europe à feu et à sang.
Voilà, voilà, le à feu et à sang, je crois que ça s'appelle, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a Europe dans le titre.
Et puis après, l'histoire comme champ de bataille.
Et donc, il a travaillé là-dessus. Et là, cet article, au fond, c'est de réfléchir à, dans le moment que nous traversons où il y a le retour de xénophobie, le retour d'essentialisation de l'autre dans des discours de figure d'un autre que l'on construit en étranger, que l'on ne peut pas, on ne peut plus connaître comme humanité concrète, c'est qui fait référence un peu à cette formule de Max Fritsch, pire que le brickbot, le silence des pantoufles, quand on commence à construire une habitude à ne plus voir l'autre comme un individu comme nous. Donc il essaye de penser qu'est-ce que c'est, les spectres, c'est ce qui fait retour, qu'est-ce que c'est que ce fascisme d'aujourd'hui. Et pour moi, la force de cet article, c'est ce n'est pas un article conclusif, c'est ce qu'on appellerait en anglais un working paper, c'est un article qui pose ce débat et qui le fait avancer, qui est ouvert à cette réflexion sur cette nouveauté, c'est-à-dire que nous savons tous, quand nous parlons d'une transition, nous savons tous, et ça dépend un peu de nous, que nous sommes dans une époque, et nous allons probablement parler de ce que nous met sous les yeux la surveillance généralisée, nous sommes dans une époque qui a d'immenses potentialités démocratiques, qui a d'immenses potentialités d'inventions nouvelles, de communication nouvelle, d'accès nouveau au savoir, de participation des citoyens. Et en même temps, c'est une époque qui a d'immenses régressions potentielles, de dépossession des citoyens, d'utilisation même de cette révolution technologique contre les citoyens, pour nous déposséder, pour nous surveiller, pour construire de l'opacité, du secret. Nous sommes dans ce moment-là, nous sommes à Bordeaux, pour tous ceux qui discutent de ces périodes de transition, on ne peut pas ne pas saluer Jacques Ellul, le premier, pour moi, que j'ai beaucoup lu comme penseur de la critique de la technique et du refus de
J'étais son dernier assistant.
Alors je ne savais pas, vous voyez, je n'ai pas... je le fais parce que ça fait partie de mon panthéon, et Jacques Ellul qui évidemment nous a mis de manière insistante, avec en plus tous ses derniers livres des années 80, sur cette sacrale, au moment où ça basculait, au moment où au fond nous basculions dans une sorte d'idéalisation du marché, de l'argent, de l'économisme, et donc des potentialités de la technique qui va s'emparer, vous le savez, dans les crises financières, ce sont ces machines qui travaillent aux nanosecondes et qui fait que tout cela échappe au contrôle humain. Et nous allons le voir sur des choses beaucoup plus dramatiques, c'est-à-dire comment on fait la guerre et comment on surveille les populations. Donc, ça aussi, ce numéro, cette réflexion, c'est aussi dans la résonance entre les différents articles. Nous, pour ça qu'il y a Google... Il y a YouTube. YouTube, pour les parents ou les grands-parents, ma fille m'a dit ça hier, elle a pris son fils, mon petit-fils, qui va avoir 10 ans, et elle lui a parlé de l'article sur YouTube, parce qu'évidemment, comment on lit YouTube, c'est-à-dire comment on regarde YouTube, et elle l'a pris comme argument, avec en plus l'argument d'autorité, tu vois, c'est la revue du grand-père, mais je dis ça parce que c'est aussi comment nous réfléchissons et comment nous agissons, comment nous retrouvons une une autonomie active et non pas une passivité face à cette modernité. Hein, c'est le sens. Hein. On commence, voilà, on ouvre un chemin et je pense que ce chemin ne doit pas être celui du désabusement, du désenchantement, du ressentiment. Il doit être celui de la critique, parfois même un peu joyeuse. L'article, nous allons en parler sur la NSA, est un article plein d'humour et d'ironie sur ces grosses machines pourtant très dangereuses.
Alors justement, on va en parler parce que là quand même on est dans l'actualité. Hein. D'abord, alors c'est un article de chercher son prénom, Grégoire Chamaillou, qui est professeur de philosophie à l'ENS, à l'École Normale Supérieure Lyon, qui a écrit un livre tout à fait passionnant qui s'appelle « Théorie du drone », en 2013, et qui fait un article à la fois très documenté, parce qu'il y a des schémas, en particulier il y a une représentation graphique des cheminements dans une cantine, page 35, modélisation des trajets normaux et détection des conduites anormales dans une cantine. Et alors, l'article, ça s'appelle « Dans la tête de la NSA », c'est pas dans celle de John Malkovich, mais c'est dans celle de la NSA, « Une histoire philosophique du renseignement américain ». Alors ça, c'est très intéressant parce que, d'abord, dans le chapeau, il y a cette phrase qui peut paraître surprenante. Le fantasme d'une NSA capable de tout collecter et surtout de tout analyser est tout simplement faux. Alors, le paradoxe, ça, allez-y parce que...
Je trouve que c'est très bien. On a fait un petit billet de blog là, pour inciter à acheter la revue et à lire cet article dans le contexte des révélations d'aujourd'hui et de demain, puisqu'il y a d'autres documents à venir. C'est le début d'un petit feuilleton.
Révélation. Tout le monde écoute tout
le monde. Une chose, c'est la lettre volée d'Edgar Poe, que tout le monde écoute tout le monde, mais ensuite de savoir qu'est-ce qui est écouté, comment sont faites les commandes, quelle est la bureaucratie, quelles sont les codifications, quelle est la machinerie. Il faut rentrer dans les détails. Et de ce point de vue, ça permet de prendre, vous allez un peu mieux encore le voir demain, de prendre conscience de l'ampleur du dispositif. Pour l'instant, je reviens
sur le chapeau.
L'article, quel est le départ de Grégoire Chamaillou? Grégoire Chamaillou, s'il faut parler de théorie du drone, c'est à La Fabrique parce que quand même, c'est une histoire assez terrible. En fait, comment la mutation de la guerre, d'une guerre qui est totale, qui se déshumanise, d'une guerre qui permet à ce que ceux qui la font ne voient plus ce qu'ils font, et ait l'impression de faire des jeux vidéo. Puisque, au fond, les drones, qui sont un produit de la révolution numérique, la guerre des drones, qui est la guerre par laquelle le président des États-Unis décide des exécutions aujourd'hui, extrajudiciaires, au tout début de son élection, ça fonctionne comment ? Et notamment, par exemple, dans la zone du Pakistan qui est près de l'Afghanistan, et avec des conséquences dramatiques sur des populations plus traditionnelles dans leur histoire, avec des cultures tribales, avec des coutumes, avec des formes de sociabilité traditionnelles, et dans lesquelles, évidemment, nous semons non pas l'amour de la démocratie, mais sa peur, voire sa détestation. Pourquoi ? Parce que, en fait, les cibles de ces drones ne sont pas décidées par du contact humain. Elles sont décidées par, justement, ces algorithmes dont nous parlons à propos de la surveillance, qui, à partir d'une communication téléphonique, à partir d'un autre élément, à partir de ceci, font de dire « Tiens, là, il va y avoir dans telle localité un tel rassemblement où il y a des cibles. » Et là, il y a un comité qui dit « On tue ou on ne tue pas ?» Et ce comité prend une décision, mais à partir d'éléments qui ne sont pas le renseignement au contact humain, qui sont ce que produit l'immense machine de collecte de données. Et là, l'ordre descend à des jeunes pilotes de drones qui sont quelque part aux États-Unis dans leur cabane devant leurs écrans.
Le film Good Kill.
Voilà, bien sûr. Et qui, eux, enclenchent ce que va faire le drone, mais le drone ne peut jamais faire machine arrière. Et donc, ce que montrent évidemment aujourd'hui des fictions inspirées de la réalité, bah, c'est qu'on le sait, hein, et on a quelques films que Wikileaks a trouvé qui le montrent, bah, c'est que la cible devient de plus en plus évidente, et au dernier moment, on voit tout d'un coup des enfants avec un vélo, une famille, etc. Mais là, on ne peut plus arrêter, et donc, ce sont l'ampleur, comme vous le savez, des dommages collatéraux que commettent cela. Dans cet article, qui est une façon de nous dire comment nous devons nous battre, parce que ce n'est pas un article pour dire que ce n'est pas dangereux, c'est pour dire ce colosse est un colosse au pied d'argile. Ne nous laissons pas écraser par ce colosse. Il est dangereux, mais il a des failles. Hein, nous sommes David, hein, et on nous construit des Goliaths. Alors comment David peut se battre face à ça? Alors le point de départ, qui quand même contient une alarme, qui est une anecdote historique, puisque la NSA, vous savez, a été très longtemps clandestine au cœur. C'est le cœur du renseignement américain, depuis la guerre froide, qui déjà avait un budget supérieur à la CIA, mais qui était une agence secrète. Et au début des années 60, quand il y a la crise des fusées à Cuba et la guerre froide qui arrive dans les Caraïbes, il y a une antenne de la NSA qui est à la Barbade, souviens bien, qui est chargée. Elle est là avec des sortes de téléscripteurs où il y a des ondes. Et que font ces hommes-là? Ils écoutent la mer. Alors, quelle est la question? C'est la question des sous-marins. Un sous-marin, ça ne se voit pas. Donc, comment savoir s'il y a des sous-marins soviétiques? Ben, il faut écouter le bruit de l'eau, dans l'eau, le bruit des sous-marins. En clair, la trace des sous-marins, la traçabilité. Et donc, de cette anecdote, on a là tout le paradigme qui va inspirer, avec la révolution numérique et tout ce qu'elle permet, l'idée de dire, eh bien, nous, vous, moi, tous, nous laissons des traces. Et donc, on va, en fait, non pas espionner ce que nous faisons, nous allons espionner, dans cette collecte massive de données, des comportements. Le comportementalisme, hein, qui fut un élément de grand débat dans tendances sectaires dans une vision de la psychologie.
Hein. Et sociologie aussi.
Bien sûr. Le comportementalisme est devenu le mantra de ces grandes machines de surveillance. Donc voilà, on surveille, il y a des données. Et les données disent que vous avez tel profil, les données disent que vous lisez ceci, que vous fréquentez cela, que vous voyagez là, que ceci et cela. Et cela fait, comme le petit graphique sur quel est le comportement anormal, eh bien vous rentrez à un moment dans la boîte anormale. Donc vous devenez potentiellement une cible. Et c'est intéressant parce que derrière, il faut quand même bien voir l'enjeu, et qui, face aux multinationales du numérique, est un enjeu important. À la fin de son article, il rappelle que dans les PowerPoint, car la NSA, c'est aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers d'employés, c'est le plus gros budget du renseignement.
10 milliards de dollars.
Voilà, du renseignement américain. Certains disent plus, même peut-être pas loin de 20, on n'est pas sûr d'avoir tout le budget. Il est protégé par le secret défense, on ne peut pas avoir accès à tout. Et c'est évidemment ce qu'on veut nous faire, pareillement, dans le vote qui a lieu aujourd'hui en France. Et donc, la NSA, dans un de ses PowerPoint internes révélés par Snowden, il ne faut pas oublier les hommes et les femmes qui prennent des risques. Monsieur Assange, qui co-signe nos révélations, est enfermé depuis 3 ans dans le petit appartement de l'ambassade de l'Équateur à Londres. Et quant à Snowden, aucune démocratie ne lui a tendu la main pour l'accueillir. Et il est, comme vous le savez, immobilisé à Moscou. Et dans une diapositive interne de présentation, il y a une photo de Steve Jobs, l'homme d'Apple, avec un iPhone à la main. Et le commentaire de la NSA, c'est « Qui aurait cru en 1984 que Big Brother ressemblerait à cela ?» C'est-à-dire en clair que vos objets courants sont ceux qui permettent à Big Brother de savoir ce que vous faites. Et après, deuxième vignette. Et là, voyez comment ces grosses machines de renseignement qui deviennent des États dans l'État, et je vais expliquer pourquoi, nous voient, nous, les individus, les citoyens, les peuples. Et qui aurait cru, en 84, que Big Brother ressemblerait à cela? Point de suspension. Steve Jobs avec son iPhone. Point de suspension. et que les zombies seraient des clients prêts à payer pour cela. Vous êtes les zombies. Vous êtes les zombies que toutes ces machines. Et là, mais vous voyez...
Vous en êtes un autre.
Hein. Mais bien sûr, non, mais je sais ce que je... Justement, je vais y revenir, ce que je ne fais pas avec ces machines et comment je travaille.
On va passer aux exercices pratiques.
Mais l'exercice pratique, il est là à la fin.
Mais quand même, Edoui Plenel, dans l'article de Chamaillou, il dit... il ne s'agit pas du tout pour la NSA de surveiller tout le monde, mais de cibler, de surveiller qui bon lui semble, quand bon lui semble.
Oui, mais bien sûr.
Cette métaphore de la meule de foin, oui. Et l'aiguille, et pour une desserdie, on prend toute la meule de foin parce que...
Mais on surveille tout le monde pour finalement désigner des cibles. Le problème, c'est que ces cibles vont être désignées par une sorte d'arbitraire, du préjugé, du comportement déviant. Il faut bien voir qu'à partir du moment où vous faites une machine... Vous allez le comprendre demain. En effet, la NSA, elle a des cibles. Et elle a des cibles décidées, y compris politiquement, institutionnellement. Et le terrorisme n'est qu'un alibi. Le gros, c'est prouvé aujourd'hui, le gros du travail de la NSA concerne les gouvernements alliés, les grandes entreprises concurrentes. En clair, la logique de puissance américaine. Hein ? Au maximum, un attentat a été évité par cette surveillance depuis qu'elle est généralisée à ce point. Et donc, ils ont des cibles. Mais en même temps, il faut bien voir qu'en en apportant par la technique cette culture de surveillance de masse, c'est-à-dire le côté, le filet, hein, c'est pas l'épuisette, c'est le grand filet, c'est pas le harpon, hein, c'est toutes ces images de pêche qu'ils ont prises, ce grand filet qui vide l'océan, du coup, ils rentrent dans une logique où on surveille l'ensemble des personnes. C'est-à-dire qu'on ne cible pas au départ l'ensemble des personnes, mais les cibles que va désigner à un moment la machine viendront de ces gens-là. Et dans ces gens-là, il y a vous et moi, il y a nos engagements, il y a nos convictions, et il y a le fait de créer un climat où on se dit... Et d'ailleurs, vous l'avez entendu dans la bouche de M. Cazeneuve, de M. Valls, de M. Urvoas. Quel est le problème si vous n'avez rien à cacher ? Vous avez entendu cette banalisation d'une phrase terrible ? Depuis le Léviathan de Hobbes, privé, c'est libre en secret. Il a fallu du secret pour inventer les idéaux démocratiques, pour être hors du panoptique du pouvoir absolu. Donc nous avons tous quelque chose à cacher. Nos pensées audacieuses, nos pensées dissidentes, nos pensées tâtonnantes. Voilà, et dire « vous n'avez rien à cacher », c'est quelque chose de terrible. C'est dire « voilà, mais non, on a tous ». Et donc, on est en train de dire « attention, si vous n'êtes pas dans la norme, vous avez quelque chose à cacher ». Parce que c'est aussi dire « n'avoir rien à cacher », c'est dire « être comme tout le monde » et ne pas être une minorité. Ne pas être un dissident, ne pas être une religion ou une croyance minoritaire. Il faut relire par les temps qui courent. Je parle en pays qui sait ce qu'il en est. J'ai relu, je crois que je l'ai là. Je voudrais vous le montrer parce que...
C'est Montaigne ou Montesquieu ?
Eh non, c'est un texte trop peu lu. Ce que c'est que la France toute catholique. C'est le fameux texte de Pierre Bayle, fait depuis Amsterdam, quand Louis XIV révoque l'édit de Nantes. Hein, et c'est extraordinaire, parce que c'est un texte du... Vous voyez qui est Pierre Bayle, hein, c'est un des esprits vraiment qui partit du protestantisme. Mais bon, voilà, qu'est-ce que c'est que quand on est minoritaire et quand on est persécuté, comment on pense ? Et il dit « Mais je plains encore davantage le christianisme que vous avez rendu puant pour me servir de l'expression de l'écriture auprès des autres religions. » C'est-à-dire quand il y a une norme qui devient la norme majoritaire, elle en vient à décrédibiliser ce dont elle se réclame si elle devient répressive, normative, punitive. Vous écouterez les quelques résonances peut-être avec des débats d'aujourd'hui. Mais j'en reviens à la surveillance. Ce qui est intéressant, qu'il faut comprendre, et qui est au cœur, parce qu'on se dit, mais comment ça marche et ce sont des débats qui ont lieu aux États-Unis aujourd'hui, pendant qu'en France, on n'en tient pas compte. Et si nous avons fait ces révélations, c'est pour que tout le monde se dise, mais réfléchissons un petit peu, hein, au lieu de faire une loi précipitée, il n'y avait aucune raison, prendre le temps d'examiner tout cela. Aux États-Unis, ce débat a lieu. Aujourd'hui, le bilan a lieu de ces modes de surveillance. Il y a une proposition pour limiter les droits de la NSA, et y compris toutes les dérives qui ont eu lieu derrière. Et qu'est-ce qui se passe ? Les services ont toujours existé, et ça fait partie d'une puissance régalienne. Le rapport entre la politique et les services, j'ai été rubricard police, j'ai suivi ça de près, et je me souviens très bien de qui étaient les hauts fonctionnaires ou les ministres politiques qui étaient capables de ne pas céder à la séduction des services, à penser que la logique pure interne des services devait se heurter à des contraintes démocratiques, politiques. Avec la révolution technologique, comment les services se comportent-ils ? Lesquels services, il suffit de lire John le Carré, ont comme métier de faire des légendes, d'inventer des légendes, de savoir instrumentaliser, y compris leur donneur d'ordre, d'amener le donneur d'ordre à poser la bonne question qu'ils ont envie qu'elle soit posée pour apporter la réponse.
C'est des journalistes qui auraient réussi, quoi.
Oui, peut-être, mais d'ailleurs, les dépêches, je dis ça comme ça, de la NSC et de la CIA, si vous regardez bien ce qu'on a publié aujourd'hui, c'est formidable. On sent que c'est une très belle machine. Ce serait fait des agenciers formidables. Le lead et le titre, parce que c'est fait court, hein, pour que ceux qui vont lire n'aient pas 10 pages à lire. Donc, ce sont des synthèses d'écoute, par exemple, la synthèse d'une conversation entre François Hollande et Jean-Marc Ayrault, juste au début de la présidence de Hollande. Et donc, c'est très bien l'idée. L'information est très bien séparée du commentaire. Tout ça est très bien fait. Mais comment ils fonctionnent, ces gens ? Ils viennent voir le politique comme des tentateurs, ces Méphisto, là. Ils viennent en disant, mais regardez tout ce qu'il est possible de faire. Regardez tout ce que vous allez pouvoir savoir. Et comment vous pouvez renoncer à cela ? Et ils viennent avec ces arguments-là. Et ce que montre Chamaillou, c'est que ces arguments, c'est évidemment dans un moment où les vieilles puissances européennes, nord-américaines, sentent bien qu'un nouveau monde, K1K, est en train de se créer, que des puissances émergentes sont issues du surgissement du tiers-monde des années 50, que ce ne sera plus la même façon de donner le « là » du monde. Donc, dans cette inquiétude-là, ils viennent avec ce raccourci technologique pour dire « vous allez pouvoir maintenir votre puissance comme ça ». Et l'article de Chamaillou se termine sur un exercice militaire qui a été fait aux États-Unis, qui était à la fois en réel et en virtuel, et où il y avait les bleus et les rouges. Et celui qui, je l'ai sous les yeux, qui faisait les rouges, le général Van Ripper, adopta une stratégie de guerre asymétrique. Je vous ai parlé tout à l'heure des partisans qui mènent une guerre asymétrique. Alors je lis. « Afin de neutraliser l'appareil de renseignement sophistiqué des bleus, qui représentait les États-Unis, il eut recours, et c'est ma réponse concrète, ouais, sur comment on doit faire quand on fait une enquête. Il a eu de recours à des moyens de communication rudimentaires qui échappaient aux capacités d'intervention adverses. Plutôt que d'utiliser des téléphones portables ou des transmissions radio, il employa des courriers à moto pour acheminer les ordres. Il fit passer des messages codés dans les appels à la prière, ensuite relayés sur tout le territoire du haut des minarets. Les bleus, devenus sourds, furent incapables de détecter les offensives rouges. Au premier jour, une partie de la flotte américaine sombra. Face à une telle débâcle, le haut commandement décida de suspendre l'exercice et ordonna à Van Ripper d'utiliser des canaux de communication interceptables par le renseignement électromagnétique. » On en rigole, mais regardez que la loi surveillance est faite, là, sans qu'il y ait au niveau parlementaire, et c'est le débat qui a lieu aux États-Unis aujourd'hui, parce que Boston, les attentats du marathon, la NSA, elle n'a rien vu. Elle n'a rien vu. Donc, alors qu'elle avait tous les moyens de surveiller les frères d'AIF, je ne sais plus comment, voilà. Faisons le bilan. Mera, Toulouse, Nemouche, Bruxelles, les frères Kouachi, Koulibaly, et le dernier là qui s'est tiré une balle tout seul et qui a appelé le SAMU, tous ont été dans les filets du renseignement. Tous, à un moment, certains ont été dans les filets de la justice, mais tous ont été dans les filets. Nous avons révélé que le cybercafé où les Kouachi à Gennevilliers ont été en relation avec le Yémen a été signalé au service. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Dès qu'il y a eu le lendemain des attentats, je suis dans une commission à l'Assemblée nationale, société civile, parlementaire, avec des majorités d'idées. Là, en l'occurrence, nous sommes face à des connaisseurs du numérique. Et donc, les députés UMP et les députés de gauche sont d'accord. Laure de la Raudière, Franck Riester, sont totalement... Enfin, c'est une vraie majorité d'idées sur ces questions du droit et des libertés à l'âge numérique. Hélas, totalement minoritaire au Parlement. Et nous avons eu une réunion une semaine après les attentats, et j'ai dit, mais dans une démocratie adulte, et indépendamment de la justice, mais de toute façon, en plus, les assassins sont morts, on fait une commission d'enquête. On essaye de comprendre le fiasco sécuritaire. On essaye de l'analyser. Et en l'occurrence, du coup, on se posera des bonnes questions. La création de la DGSI qui a fonctionné les services de renseignement intérieur, DST et RG, a perdu le contact, en partie, avec le terrain. Elle fait trop confiance à la technique. Bien sûr, elle fait trop confiance à la technique. Donc elle perd ce renseignement humain qui permet d'entendre, qui permet de suivre, qui permet de comprendre. Donc il faut se dire, pourquoi ces fiascos ? Car quand même, alors qu'on nous dit aujourd'hui, vous savez, cette loi ne fait que légaliser ce qui existait et qui était illégal. Déjà, vrai débat. Parce que ce serait illégal, il faudrait le légaliser. On peut l'expertiser quand même. Les États-Unis ont pratiqué la torture, c'était illégal, il faut le légaliser. Non, au contraire, ils viennent de voter des dispositions pour dire, on fait notre autocritique et on va mettre des textes pour dire qu'on ne doit pas torturer. Mais là, donc toutes ces techniques existaient. Et Mera a fait tous ses voyages et ils sont dans les fichiers. Et Nemouche aussi. Et ils n'ont rien empêché. Alors pourquoi ? Parce qu'ils ont fait comme les rouges du général Van Riebeur. Ils savent jouer, savent masquer. Moi, par exemple, je n'ai pas mes mails. Je n'ai jamais mes mails. Vous pouvez m'envoyer un mail si je suis en déplacement, je ne le verrai pas. Parce que je sais que ces machines-là, d'ailleurs nous en avons fait la démonstration, avec un hacker, nous avons montré comment il suffisait de se mettre à côté du Parlement européen avec un ordinateur assez simple, et on a pris les mails de parlementaires européens. Nous avons fait cette démonstration. Donc, nous savons, nous, dans une enquête, que quand une enquête devient difficile, il faut aucune trace électronique. Et il faut uniquement un rapport humain dans des lieux qui soient des lieux sécurisés et qui empêchent d'être surveillés. Bon, après, peut-être parfois, il y a des erreurs, mais c'est ce qui nous a permis, autant que je sache, pour l'instant, personne n'a réussi à nous empêcher de faire ce que nous faisons.
Tout à l'heure, vous évoquiez, vous avez employé cette expression, la danse des sept voiles que pouvaient jouer les services de renseignement, les services, comme vous disiez, auprès des politiques. Est-ce qu'il arrive parfois qu'il fasse ce numéro auprès des journalistes d'enquête ? Et est-ce que vous êtes instrumentalisé parfois par les services ? Ou est-ce que vous ne participez pas parfois d'un règlement de compte à l'intérieur des services ? Je fais référence entre autres à ce qui s'est passé il y a 30 ans.
Alors justement, la réponse est vraiment... J'ai écrit ce livre, La Troisième Équipe, pour répondre à ça. Moi, je ne suis pas du tout fasciné par l'univers des services. Et je raconte l'affaire Greenpeace, contrairement à beaucoup de bobards, je ne l'avais jamais raconté, qui ont été écrits sur elle et sur mon enquête, et qui sont des bobards venus de ce que j'appelle, en rigolant, le cerveau reptilien de l'État profond, c'est-à-dire qui a ses mercenaires dans les médias et qui n'aiment pas perdre. Et je raconte la réalité de cette enquête. J'allais avoir 33 ans, et en fait, c'est une enquête dans un style pas du tout les services, pas du tout les rendez-vous mystérieux ou les sources au fin fond d'un parking souterrain aurait l'air de pervers avec des imperméables et voilà. Non, je raconte justement l'enquête presque d'un naïf qui n'a jamais eu de fascination pour cet univers qui fabrique des légendes, qui a un rapport médié à la réalité, c'est-à-dire qui n'est pas celui de ce que j'appelle les vérités de fait, celui que peut avoir la police judiciaire ou que peut avoir une enquête scientifique, qui est un univers construit un peu son rapport au réel dans une forme de clientélisme aussi avec à la fois ses commanditaires et ses sources. Et donc je me suis toujours défié de cet univers, non pas de son existence, parce qu'il est nécessaire, mais sa culture du secret, le fait encore plus dans nos institutions qu'il n'ait très peu de comptes à rendre, qu'il ne soit pas confronté à des contre-pouvoirs, à d'autres pouvoirs, qu'il soit le pouvoir judiciaire, qu'il soit le pouvoir de la presse, crée quelque chose d'assez malsain. Et dans le cas de l'affaire Greenpeace, c'est une enquête où j'ai été une sorte de petit Columbo. Je ne sais pas si vous vous rappelez les épisodes avec ce rôle joué par Peter Falk, qui dit dit...
Et c'est 403 dégâts totaux.
Ma femme m'a dit...
Vous n'aviez pas 403 dégâts totaux.
Oui, enfin, j'étais... Voilà, moi qui a l'air de penser à autre chose, puisque le principe de Columbo, c'est qu'on sait au début qui est le criminel. Et donc, toute l'intensité dramatique, c'est comment Columbo va faire tomber la Libye. L'affaire Greenpeace, c'est pareil. Très tôt, on a dit, c'est l'État français qui a commis cet attentat. Et a été mise en scène une version mensongère, la version d'une surveillance, puisque des agents avaient été identifiés, pour dire, on n'a pas commis l'attentat, on était là pour surveiller. Et là, dans les médias, des mercenaires, comme j'ai dit, se sont chargés de répandre les légendes des services, qui est de dire que c'était peut-être des Anglais qui avaient fait l'attentat, avant que c'était des mercenaires liés à l'extrême droite, et puis après de dire que j'étais à la CIA, au KGB, puis après à la CIA. Bon, donc j'ai voulu raconter la vérité très pragmatique, très presque avec une ironie d'une enquête. Et ça vous... parlera. Je cite dans ce livre quelqu'un qui est une référence pour moi dans les débats, y compris les débats démocratiques, qui est une culture qu'on connaît trop peu en France, qui est ce qu'on appelle la philosophie pragmatiste américaine, John Dewey. Et je cite un livre de John Dewey qui s'appelle « Logique » et qui est sous-titré « Théorie de l'enquête » et qui explique, vous savez, au moment de l'affaire Cahuzac, vous vous en souvenez, des preuves, des preuves, des preuves. Où sont vos preuves, hein? C'était les médias, les autres médias. Elles étaient là, il suffisait de bien écouter. Non, ce n'était pas Donald Duck, la voix, c'était réellement Cahuzac. Et la police a bien conclu que c'était lui. Je dis ça parce que vendredi soir, Canal Plus m'invite à venir saluer le départ de Jean-Michel Apathy. Donc nous allons parler de ça, puisque c'était il y avait, voilà, ce moment-là où j'avais ce journalisme de croyance qui ne croit pas. Vous lui mettez des faits et il ne veut pas voir le puzzle. Donc il vous dit, voilà, bon, et ça a duré 3 mois. Et justement, Dewey donne la réponse. Il dit, la vérité de l'enquête, c'est son processus. Ce n'est pas une preuve que vous sortez comme ça. C'est le processus qui va légitimer l'enquête. C'est son protocole, ce qui rejoint notre artisanat, comment on vérifie, comment on recoupe, comment on tâtonne, comment on fait une erreur, comment on ferme une porte, etc. Et c'est ce que je raconte dans ce petit livre qui peut se lire comme une petite nouvelle policière, la troisième équipe, et où il y a, on dit que je n'ai pas d'humour, vous verrez qu'il y a un petit peu d'ironie, et il y a quelques surprises à la fin avec... plusieurs petites tombées de rideaux.
Alors vous pourrez trouver le livre aussi en sortant. Voilà.
Je vous remercie.
Merci.